9h27, nos invités ce matin nous proposent un livre qui s'appelle « Regards croisés, de l'Arctique à l'Afghanistan ». Et c'est vraiment, puis là, je suis très curieux de voir comment vous avez pu établir ce lien entre vous, parce que, bon, je connais très bien Fabrice de Pierrebourg, c'est sûr. Marc-André Posé, illustrateur, photographe, bonjour.
Bonjour.
L'idée de ce livre est arrivée comment? Ma première question.
À la fois une longue et une courte histoire. Paul, moi, je voyage depuis environ une trentaine d'années. À la fois pour le plaisir, mais aussi pour le travail, entre autres pour l'émission ici, dans des lieux où il n'y a pas souvent beaucoup de tout inclus. J'en rapporte à chaque fois beaucoup de souvenirs dans ma tête, des tonnes de notes, des photos. Puis ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose avec ça, mais je voulais pas faire un livre de journaliste qui raconte sa vie de journaliste. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens que je rencontre, des situations que je vis. Et donc, je cherchais un moyen original de raconter ces moments-là. Puis je voulais passer aussi un petit peu, j'étais très attiré par le style du roman graphique ou de la BD reportage comme ceux de Joe Sacco. Sauf que Joe Sacco, il a un avantage par rapport à moi, c'est qu'il sait raconter puis il sait dessiner. Alors que moi, à la rigueur des bonhommes allumettes, ça s'arrête là. Et en décembre 2017, il me semble, je suis tombé sur un reportage de Marc-André qui était publié dans la Presse Plus. C'était son voyage sur l'Amundsen, le brise-glace Amundsen, qu'il avait lui-même illustré par ses dessins, ses aquarelles, si je me trompe pas, des termes techniques. Et je me suis dit, voilà, je pense que c'est ça que je veux faire. Donc, on s'est rencontrés dans la petite Italie devant un cappuccino. Et puis, en jasant, je me suis rendu compte que Marc-André, finalement, lui aussi avait fait des voyages, mais dans des endroits qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les miens, un peu plus froids, je dirais, à tout point de vue. Et on a décidé de fondre nos histoires ensemble et que ce serait lui qui les illustrerait. Et c'est comme ça que ce livre-là, on se balade, effectivement, de l'Arctique à l'Afghanistan.
OK. Marc-André Posé, parlez-moi un peu de vous. Ce goût du dessin, de l'illustration, du voyage, c'est arrivé comment?
J'ai été 30 ans à ne pas dessiner.
Donc, 30 ans?
Donc, quand j'étais jeune, je caricaturais mes profs, je faisais des bandes dessinées, tout ça. Puis, quand sont arrivés les enfants, je suis passé à d'autres choses. Donc, les dessinateurs aiment dire que tout le monde dessine quand ils sont jeunes. Les dessinateurs, eux autres, ils continuent. Ben moi, j'avais arrêté.
OK.
Et puis, mais le goût du voyage, le travail m'a emmené beaucoup à voyager. En 2015, est arrivé un accident où j'ai été blessé, puis il a fallu que j'arrête mes activités de photographe et de voyager. Puis c'est là que le goût de dessiner est revenu.
C'est un accident qui vous a ramené à dessiner.
Oui, oui.
Et les endroits que vous avez visités, Fabrice dit que c'est complémentaire. Vous êtes,
En fait, j'ai beaucoup été à Madagascar, certains pays d'Afrique, puis beaucoup les communautés autochtones, le Grand Nord, donc le Nunavik, la partie québécoise de l'Arctique. Puis, depuis que je vais sur l'Amundsen, là, on va dans le très haut Arctique. Puis, je suis les scientifiques qui font.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans...
En fait, moi, je suis infirmier à la base. Et puis, comme j'ai travaillé dans les communautés autochtones, donc j'ai une capacité de travailler en rôle élargi, ce qu'on appelle. Donc, au départ, à la garde côtière, c'est pour ça qu'ils m'engagent. Je suis officier de santé. Mais comme on souhaite qu'il n'y ait personne de malade ou d'accident sur le navire, alors j'occupe mon temps en dessinant, photographiant. Puis j'avais travaillé comme photojournaliste aussi, donc je traîne toujours mes caméras, puis c'est comme ça que...
Mais je regardais, il y a des illustrations. D'abord, c'est magnifique, là. Il y a une illustration de guerre, une espèce de quoi, un tireur, là, qui est... Il faut l'avoir vu ou si vous êtes capable de l'imaginer?
En fait, quand j'ai rencontré Fabrice, au départ, moi, je pensais qu'il voulait que j'illustre ses aventures, ses voyages. Puis là, il m'est arrivé en disant « Oui, mais toi aussi, t'écris, puis peut-être qu'on pourrait... » Bon. Pour illustrer ses voyages ou ses reportages, il a fallu que je m'assoie avec lui, qu'il me raconte
ce qu'il a vu.
Il m'a fourni de la documentation. Puis à partir de photos, de vidéos, de ces histoires qu'il me racontait, je me suis imaginé, j'ai essayé de rentrer dans sa tête puis d'illustrer ce qu'il avait vu. Donc il y a une partie qui est référencée à partir de ces photos, puis il y a une partie qui est imaginaire.
On comprend que tu n'es pas, évidemment, quelqu'un qui voyage dans les zones touristiques fréquentées largement par, disons, des centaines de milliers de personnes. Tu vas dans des coins perdus parfois, puis d'autres coins à risque aussi.
Oui, tout à fait. Mais le livre, c'est un équilibre un peu entre ces deux extrêmes, je dirais. Puis, par exemple, je raconte, quand je suis allé au Mali en septembre, je me suis souvenu du voyage au Mali que j'ai fait quand j'avais 19 ans, ça remonte à loin, où là, c'était pas du tout, on n'était pas du tout dans le même contexte. C'était un pays très paisible, très calme. On pouvait dormir la nuit dans les villages. On se promenait sur un bateau, comme je raconte, sur le fleuve Niger, avec il y a des poules, des brebis, des moutons. Ça égorge le mouton sur le pont, ça fait le thé, etc. et tout. Puis je voulais raconter aussi ça. C'est que ce livre-là, c'est aussi, c'est pas un livre nostalgique non plus, mais on veut raconter des pays où on est allé, où on a eu la chance d'aller avant qu'il y ait du trouble, avant qu'il y ait de la guerre, avant qu'il y ait de l'instabilité. Mais il y a aussi des petits moments fugaces, plus de bonheur. Il y a une petite scène qui se passe dans un salon de thé à Erbil, au Kurdistan. Ben, c'est très calme. Il y a des gens qui jouent au dé, qui lisent des livres. On essaie aussi de retranscrire cette ambiance moyen-orientale, paisible, etc. Donc, puis oui, il y a des scènes plus violentes. Comme à Mossoul, où je suis allé pour l'émission. Puis là, on a choisi même de le traiter différemment. C'est-à-dire que là, on n'est plus en aquarelle, on est quasiment en bande dessinée, parce que je trouvais que ça donnait un rythme plus intense au récit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, il y a des bombardements, c'est des scènes atroces, c'est des scènes bouleversantes. La bande dessinée, telle que l'a fait Marc-André, ça permet au lecteur de rentrer vraiment dans cette scène-là, d'être avec moi à ce moment-là et ce jour-là, quoi.
Tu as soulevé un point qui est intéressant, c'est-à-dire d'être allé une fois quelque part et d'y retourner plusieurs années après dans un autre contexte complètement différent. Ça arrive souvent. Moi, j'ai interviewé un jour quelqu'un qui avait le souvenir, on était en pleine guerre du Liban, là, et du souvenir du Liban, d'avant. Ville magnifique, la ville d'avant, puis quel point il y avait des activités nocturnes, puis qu'il y avait une joie de vivre. Il dit, quand tu retournes là, puis qu'on est en plein milieu d'une guerre, et ça vient te chercher complètement, c'est de voir puis comment la population qui, elle, reste sur place, s'ajuste, s'adapte à ces situations.
Ah oui, tout à fait, puis ça prend à la gorge. Tu cites l'exemple du Liban, on a une scène dans Beyrouth, puis moi je suis allé à Beyrouth en 91 pour la première fois, puis on m'a amené justement au cœur de Beyrouth. À l'époque, les superlatifs, on disait que c'était la Suisse du Moyen-Orient, le Monaco, etc. Puis tout était dévasté, c'était fantomatique. Le centre-ville, là, tout était rasé, il n'y avait plus rien. Puis il y avait l'hôtel de ville de Beyrouth, qui est un édifice magnifique, qui a été restauré d'ailleurs en style ottoman. Puis j'avais des cartes postales d'avant, puis c'était pour une agence de presse que j'étais allé, puis on m'avait dit le truc classique, tu vas faire avant, après. Donc là, j'avais retrouvé l'angle exact où avait été prise cette photo, où on voyait effectivement des voitures, une animation, des gens en terrasse, puis là, plus rien. Des arbres qui poussaient, le néant. Puis j'ai vu arriver un petit bonhomme au fond, là, un homme avec du bois sur l'épaule qui marchait. Je me suis dit, ah, ça, c'est une image, c'est une photo. Puis je le raconte dans le livre. C'est-à-dire qu'effectivement, mais là, c'est à travers les récits des gens et à travers les photos d'avant, les cartes postales d'avant, dit comment un pays peut basculer en très peu de temps. Effectivement, comme on dit, un pays très animé, au chaos. Et on voit que le Liban, d'ailleurs, ne s'est toujours pas remis de ces guerres-là, quoi.
Je ne peux pas vous poser la question. Il y a eu le rapport cette semaine de la commission Vient sur les Autochtones. Vous avez quand même une expérience importante, le terrain. Vous en avez pensé quoi du rapport?
En fait, moi, j'arrive d'Arctique, fait que j'ai pas. Okay. Je suis encore un peu décalé par rapport à l'actualité. Là, j'ai pas suivi ce qui est arrivé. La sortie du rapport, j'ai pas.
OK. Mais la vie des Autochtones, là, dans le Grand Nord, dans le haut du Québec, ça se passe comment?
Y a une situation que les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue appellent ça le broken spirit. OK. Donc l'esprit brisé. Il y a cette situation-là, ça apparente beaucoup à un syndrome de choc post-traumatique. Donc, c'est des blessures émotionnelles qui fait qu'il y a des comportements d'autodestruction. Et puis, ça, il n'y a rien. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. On va parler de drogue, d'alcoolisme, de toxicomanie. Mais ça, c'est des symptômes, c'est des résultats d'un problème. Ce n'est pas la cause. La cause profonde, c'est difficile de s'y attaquer. On peut mettre des affiches sur les murs contre l'alcoolisme et la toxicomanie, mais à la base, il y a un problème beaucoup plus profond, intérieur, d'identité puis émotionnel.
Ce que vous appelez l'esprit brisé.
Exact.
Pourriez-vous me définir ça un peu plus? Qu'est-ce qui est brisé?
En fait, c'est la construction émotionnelle et identitaire qui est brisée. Il y a une blessure. Au même titre qu'un soldat qui revient d'Afghanistan, là, c'est un soldat qui revient d'Afghanistan va être très avoir une vie normale et on ne sait pas pourquoi. Il y a un moment donné, il y a un déclic qui passe puis il tombe dans des comportements d'autodestruction. Souvent, les Autochtones vivent ça. Puis il y en a qui s'en sortent très bien. Le livre, je raconte ils s'en sortent très bien, mais c'est difficile. Des fois, ça prend 20 ans, 30 ans de travail de reconstruction émotive puis identitaire.
Parle-moi des humains en terminant que tu as rencontrés, qui vivent là, dans des zones de guerre, dans des zones de terrorisme également, puis qui arrivent quand même à avoir une certaine vie. Nous, on se dit on serait cachés tout le temps, mais ce qui n'est pas leur cas.
Oui, puis je vais employer un mot qu'on emploie souvent, c'est la résilience.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui sont résilients, mais il y en a beaucoup, je me demande aussi, que j'ai croisé, je me demande toujours qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi. Et c'est sûr, quand on va au Mali, les Maliens sont très philosophes à la base, sont très patients, mais ils vivent un drame. C'est un pays qui était hyper pacifique, puis qui est pris avec le phénomène djihadiste en ce moment, et il y a une contamination dans les pays limitrophes. Mais si je prends l'exemple de l'Irak, la petite fille de Mossoul dont on parle dans le livre, petite fille que j'avais croisée en reportage, ben je me suis toujours demandé ce qui est arrivé, elle et ses parents. Je raconte qu'effectivement, je la vois arriver, elle sort de Mossoul sous les bombardements avec sa famille. Ils sont terrorisés, sont dans un coin, puis elle est blottie dans un... Je la prends en photo, je discute avec ses parents. Ils pensent être sortis, puis d'un seul coup, son père dit « Ah mon Dieu, mes grands-parents sont toujours pas là, faut qu'on y retourne ». Je dis, comment ça, faut que vous y retourniez. Imaginez la scène, hein, je l'ai décrite ici à la radio, j'ai posté des photos à l'époque, d'apocalypse. Je dis, vous n'allez pas retourner là. Il dit, je ne peux pas partir sans mes parents. Puis je leur ai donné de l'argent pour qu'ils prennent une charrette. Il y a de l'argent qui fait. Du monde fait de l'argent avec la guerre, là, donc au moins ils allaient vite. Puis je les ai vus s'éloigner sur cette charrette dans Mossoul, sous les bombardements, avec la petite fille qui me regardait. Et ça me hante encore beaucoup maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? C'est ça qui ça fait. Et c'est des histoires comme ça qu'on raconte. Ils sont pas toujours gays, mais c'est une manière aussi à moi, puis à tous les deux, de rendre hommage à tous ces gens-là qu'on a croisés, des fois de façon très fugace, dans nos voyages et dans nos reportages, quoi.
Regard croisé de l'Arctique à l'Afghanistan. Fabrice de Pierrebourg, Marc-André Posé, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est un très beau livre, très beau livre. Merci.
Merci.
Fais la pause. Puis on revient après avec le sujet de tribune téléphonique que je vous ai déjà pas mal annoncé, mais je vais le confirmer après ceci.